9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel. Le numéro 9 de la luxueuse revue Mastermind vient de sortir. C'est un petit événement en soi, car cette revue sort tous les 6 mois seulement. Et le format ressemble davantage à un livre d'art qu'à un magazine. Couverture rigide entoilée, 300 pages de papier glacé avec des photos assez sublimes, de très longs textes écrits dans un style très soigné et des entretiens fleuves avec des personnalités comme Charlotte Gainsbourg, Boris Cyrulnik ou Patti Smith. Et c'est pas tout. Mais à l'heure où on dit le support papier condamné, une telle entreprise peut-elle être pérenne, et si oui, comment? À moins que le but soit davantage d'éditer un objet de collection qu'un magazine de luxe. Bonjour Marie-Amélie Sauvé.
Enchantée, merci.
Vous êtes la créatrice et la directrice éditoriale et artistique de Mastermind. Avec nous Valérie Costantino, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la rédactrice en chef de Mastermind. Marie-Amélie Sauvé, d'abord, comment définiriez-vous Mastermind? Comme un livre d'art, comme une revue?
Alors c'est un peu entre une revue et un livre. On a essayé de faire un beau livre. Il est constitué de chapitres comme un livre.
Ouais.
Donc en fait, c'est surtout que je voulais faire un magazine qui soit intemporel et qui se garde comme un objet de collection.
Pourquoi ce titre Mastermind? Il a à voir avec vous très personnellement.
Alors c'est assez personnel, oui, parce que quand je travaillais au Vogue américain, il y a longtemps, une petite dizaine d'années, je pense que les gens trouvaient que mon prénom était beaucoup trop long, donc ils m'appelaient MAS.
C'était un acronyme.
Marie-Amélie Sauvé.
Voilà, Marie-Amélie Sauvé. Exactement.
Ouais.
Et du coup, quand j'ai dû trouver un nom pour ce projet qui m'était très personnel, je cherchais. J'ai cherché un nom qui commence par mes initiales.
Vous êtes la chance.
J'ai cherché, puis je suis tombée sur Mastermind.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est très bien, c'est pas mal, Mastermind, ça va être comme ça le nom d'un objet où je vais pouvoir inviter tous les Masterminds que j'aime, que j'admire, que j'ai envie de rencontrer. Quoi.
Vous avez de la chance que si moi je faisais un magazine, il s'appellerait PV, ce qui n'est pas très élégant. ça rappelle un peu Égoïste, pour qui ne connaîtrait pas, c'était cette revue très luxueuse.
Absolument,
qui sortait une fois par an, c'est dans les années 70-80,
ouais.
Je me souviens. Créé par Nicole Wisniak, le grand égoïste. C'est erratique, on a regardé, le dernier remonte à il y a 3 ans.
Oui, parce
c'est ça, il y a 3 ans.
Valérie Costantino.
Elle a décidé que le numéro ne sortirait que quand elle serait prête. Donc s'il lui faut 2 ans de préparation pour trouver le bon sujet, la bonne couverture, c'est
bien. Et surtout, elle avait un partenariat avec Richard Avedon, qui est un des plus grands photographes du monde, quand même. Donc c'était ça aussi la force de cette revue. Elle avait. Les photos d'Avedon étaient absolument extraordinaires. Quand même. Et le contenu était bien aussi, le contenu était assez exigeant.
Je reste auprès de Nicole Wisniak, si j'ose dire. Vous connaissez peut-être le conseil que François Sagan lui avait donné, vous connaissez ou pas?
Pas du tout.
Sagan lui avait dit: ne fais écrire que des écrivains et ne t'adresse pas à des spécialistes. Je me tourne vers vous, Valérie Costantino. Comment sont sélectionnés les contributeurs de Mastermind? Est-ce qu'il y a un comité de rédaction?
Non, il n'y a pas forcément un comité de rédaction. En fait, ce qu'on fait tout d'abord, on essaie de réfléchir avec Marie-Amélie et Jérémy, enfin, l'équipe, a des thèmes, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous... Enfin, dans le magazine, en fait, qui est donc divisé en chapitres, mais en fait, chaque chapitre a un thème qui peut être une idée, une personnalité ou un lieu. Donc tout ça, tout étant transversal, le but étant de pouvoir décliner justement tout ça. Et ensuite, on essaie de trouver des bonnes plumes qui peuvent être des journalistes ou des auteurs sur des précédents numéros, par exemple.
Le meilleur journaliste possible pour le meilleur.
Léla Slimani ou Marie Dariussec ont écrit aussi pour le magazine, mais par exemple Constance Debray, qui écrit divinement bien, a fait une interview aussi pour nous de Kristen Stewart. Ensuite, il y a certains journalistes avec qui on a des affinités, on pourrait dire, ou qui sont force de proposition, comme certains journalistes, comme Jean-Marie Durand ou Christophe Comte, qui ont travaillé avec Serge Kaganski.
Trois anciens des Inrocks.
Trois anciens des Inrocks.
Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé aux Inrocks.
Mais je peux citer aussi Clémentine Gozal, qui a pas mal aussi écrit pour nous, ou Tania de Montaigne, qui n'est pas une ancienne des Inrocks.
Et si lui était encore vivant, est-ce que vous lui auriez demandé d'écrire dans votre revue? On l'écoute.
Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'ai écrit ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
Vous avez reconnu le fameux poème d'Éluard, Liberté.
Paul Éluard, oui.
Mais surtout, c'était la voix de Paul Éluard.
Ouais, bah oui, c'est génial.
Ouais. Vous le citez en exergue d'un chapitre consacré à la menace des libertés individuelles. Pourquoi ce choix? Pourquoi Éluard?
Pourquoi Éluard? Parce que c'est Jean-Marie Durand qui écrivait un papier justement sur les libertés, comment les libertés sont menacées aujourd'hui en période de surveillance globale et de pandémie, comment les restrictions et les gens acceptent de plus en plus de perdre leur liberté. Et il a eu cette très belle idée au départ d'écrire Liberté, pas J'écris ton nom, mais Liberté, j'efface ton nom.
Voilà.
Donc de Liberté, j'efface ton nom, on a trouvé tous ensemble que c'était un très joli titre d'article. Et Liberté, j'efface ton nom est devenu ce papier de Jean-Marie.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans votre édito, Marie-Amélie, vous vantez une valeur qui n'a pas bonne presse en ce moment, la famille.
Bah
vous
oui,
décrivez cette idée de la famille comme noyau fondateur et force créatrice et la ligne directrice de ce 9e numéro. Pourquoi la famille?
Mais parce que dans cette crise sanitaire, je trouve que la famille, c'est une très belle valeur. Justement, on a besoin de valeurs refuge et je trouve que...
Pardon de vous dire ça, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, exactement.
Si on n'a pas le droit de sortir, on ne peut pas faire autrement.
Non, on n'a pas le choix. Et c'est une valeur qui me tenait très à cœur et qui m'est très personnelle. On a une interview d'ailleurs de Jérôme Salomon que j'ai adoré. Puisque c'est l'arrière-arrière-petit-fils d'Alfred Dreyfus.
Ouais. Le patron de la santé publique,
voilà,
c'est ça,
exactement.
Je ne me souviens plus son titre exact.
Directeur général de la santé.
Voilà.
Merci Valérie.
Moi je me demande comment on arrive à se construire, à vivre, à transmettre à ses enfants quand on vient d'une famille qui a connu de tels drames. Donc, et c'est très bien écrit, c'est lui qui a écrit l'interview. Et c'est écrit avec beaucoup de grâce, je trouve.
Marie-Amélie dit à écrire parce qu'en fait, ça a été fait contexte sanitaire oblige, ça a été fait par mail,
ouais.
Parce que c'était vraiment compliqué. Donc en fait, il a pris, la journaliste Ava a lui envoyé des questions et il a pris vraiment énormément de temps à répondre.
Et c'est très joliment écrit, je dois dire.
Quoi,
c'est très émotionnel.
Il y a quelque chose que je n'ai absolument pas dit encore, c'est que c'est en anglais. Est-ce possible? Réponse tout de suite après ça, on parle de Mastermind. Nous sommes avec Marie-Amélie Sauvé et Valérie Costantino. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Marie-Amélie Sauvé, elle est la créatrice de ce magazine que j'ai ici, et ce qui s'appelle Mastermind, M-A-S, c'est l'acronyme, ce sont vos initiales. Valérie Costantino, sa rédac-chef. Mastermind, je l'ai dit, a cette particularité d'être édité en anglais. Et pour la première fois, le numéro est accompagné d'un supplément de traduction en français. Et encore, tout n'est pas traduit. D'abord, pourquoi en anglais et pourquoi vous coupez d'une partie du lectorat français?
Alors, pourquoi en anglais? C'est un peu une habitude que j'ai prise parce que j'ai commencé ma carrière au Vogue français, qui était un magazine qui était fait à Paris, mais qui était édité par un groupe de presse qui s'appelle Condé Nast, qui est un groupe américain.
Ouais.
Donc, en fait, c'était un journal qui était fait en France, mais qui était très international. Après, je suis partie faire ma carrière aux États-Unis, au Vogue américain, au W, au New York Times. Donc, j'ai pris l'habitude, en fait, de travailler pour des journaux...
Mais attendez, ici, on est une émission média, et vous me parlez de vous, mais moi, je pense aux lecteurs.
Alors,
pourquoi faire un journal en anglais, alors que les gens ici parlent français?
En fait, déjà, aussi... je pense qu'il y a plus de gens qui lisent l'anglais que le français, donc
dans
on a plus dans le monde.
Donc c'est un magazine mondial.
Alors c'est un magazine exactement.
Enfin, à vocation planétaire.
En fait, à vocation internationale. Celui-ci, il a été fait pendant le confinement, donc on a plus de personnalités françaises qu'internationales cette fois-ci. Et c'est pour ça qu'on nous avons fait ce supplément en français, mais que j'ai trouvé super en fait. Et je me suis rendu compte que comme c'est un magazine, eh bien, qui est fait en France, nous allons continuer dans le futur à l'éditer. Enfin, mon rêve, c'est de faire aussi une édition française aussi. Vraiment.
Alors, deux questions. Alors, je précise que le prix unitaire de cette revue est de 30 euros, c'est bien ça?
Oui, c'est 30 euros,
Voilà, 29 livres et 49,99 $, c'est écrit là sur la première page. Il y a bien écrit 30 euros. Le tirage de Mastermind, c'est combien?
20 000.
C'est 20 000,
Et vous les vendez à qui et dans quel pays?
Dans 20 pays, un peu partout dans le monde. Alors, en France, on va à Paris.
Ouais.
Alors, Paris étant dans les points de distribution, les bonnes librairies, dirons-nous, qui sont les corners, Palais de Tokyo, Beaubourg,
les librairies des musées.
Vous avez dit Beaubourg, j'ai cru que vous alliez dire Bobo.
Non, beaucoup.
Parce que j'allais vous demander, quelle était la cible ?
Alors la cible, c'est marrant parce qu'en fait, c'est des gens très jeunes, enfin assez jeunes, c'est des gens entre 25 et 40 ans à peu près. Et alors il y a autant de filles que de garçons, ça me met en joie, parce que c'est pas qu'un magazine féminin, et c'est plutôt jeune. Donc moi j'adorerais que ça s'étende à tous les âges en fait, je trouve que voilà.
Le journal est rentable ?
Oui, il est rentable, il a un modèle économique, tout à fait.
Ça allait être ma question, quel est le modèle économique du journal ?
Alors le modèle économique, en fait on vit grâce aux annonceurs, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des annonceurs qui sont très très fidèles depuis le premier numéro. Alors évidemment on cherche toujours de nouveaux annonceurs, c'est la question éternelle.
Évidemment,
bien sûr.
Comme tous les magazines.
J'ai des annonceurs qui me font énormément confiance aussi, donc...
Alors, il y a une petite particularité, c'est que vous êtes édité par une agence de communication,
de pub.
BETC Étoile Rouge, dédiée en partie au luxe, justement.
Oui, parce que nous sommes tous des partenaires du luxe. Je viens du luxe, BETC aussi vient du luxe, donc l'union fait la force, on s'est associé pour être plus fort, en fait.
Qu'est-ce que ça change d'avoir comme éditeur une agence de pub plutôt qu'un éditeur, si j'ose dire, classique?
Je pense que c'est dû à la rencontre que j'ai faite avec d'abord Brune Buonomano.
Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça change dans le texte? Alors, je vais me tourner vers Valérie Costantino. Ça change rien du tout. Vous n'avez pas d'injonction à dire de marques qui sont agencées.
Non, pas du tout.
Absolument rien, aucune injonction, très franchement, on est très libre.
D'ailleurs, c'est un grand luxe, parce que c'est un journal qui n'est pas du tout formaté. On a une très grande liberté éditoriale, franchement.
Franchement, et j'ajouterais en plus que ce qui est vraiment agréable aussi au niveau du travail, pardon, avec le micro, décidément.
Il suffit de parler en face.
C'est que cet espace de liberté aussi fait qu'il y a quand même un certain formatage aujourd'hui dans la presse, qui est normal, enfin dans tous les médias. Là, si on a envie de faire 20 pages sur Patti Smith ou le nombre de signes avec qui on veut, il y a une liberté éditoriale énorme qui nous permet de travailler sur ce temps long pour essayer d'en faire, si on peut, à l'époque de la rapidité instagrammable, d'avoir un objet qu'on pourra relire à nouveau, si on en a envie, dans quelques années, en anglais, Philippe.
Je note cette phrase, un grand luxe de travailler dans ce magazine de luxe. Touchez quel public ? Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, il faut consacrer un chapitre au béton, avec un très beau texte d'Olivier Boucreux sur la ville du Havre, qui a été reconstruite donc tout en béton. Pardon de dire les choses, mais est-ce que c'est pas un peu snob, un peu bobo, de faire la promo du béton rectangulaire auprès des CSP+, qui voudraient tout faire sauf habiter dans ces endroits-là?
Vous croyez que les bobos aujourd'hui ne voudraient pas habiter au Havre, à la Grande
J'ai plutôt l'impression qu'ils aiment les beaux appartements du boulevard Saint-Germain, de ce que j'en connais.
Vous croyez qu'ils n'aiment pas un joli Auguste Perret?
Répondez pas à une question par une autre question. Vous voyez très bien ce que je veux dire.
Non, alors moi, je vois très bien, mais je pense qu'il n'y a pas... En fait, on s'est dit, l'idée du béton, en fait, était vraiment intéressante pour nous à décliner aussi au-delà du Havre, parce que ça pouvait être une autre ville. L'idée, c'était aussi de parler de Le Corbusier, d'avoir Tadao Ando qui réhabilite la Bourse du Commerce et expliquer en quoi le béton était tendance aujourd'hui aussi, pourquoi on revenait vers le béton. Alors, de fait, on aurait... peut-être pas été confiné, peut-être qu'on serait parti à l'étranger pour faire un photoreportage d'une autre ville. C'est vrai que là, le Havre, c'était quand même plus facile, d'envoyer une équipe que de partir à l'autre bout du monde, ça c'est sûr.
S'ensuit après ce papier sur le béton, très très bien écrit, une interview du maire du Havre, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, mais également, il y a une interview, c'est un autre sujet, de l'ancien président de la République, François Hollande, mais aussi de l'ancienne garde des Sceaux et figure de la gauche, Christiane Taubira. Pourquoi cette incursion dans la politique ?
Alors, pourquoi cette incursion dans la politique ? Parce qu'en fait, quand on réfléchissait, on avait, justement, par rapport au sommaire, on avait une envie... alors, pour répondre, pourquoi Édouard Philippe ? Par exemple, Édouard Philippe, parce que le Havre, maire du Havre, c'était logique. On lui a pensé tout de suite et il parle en plus.
Mais l'ancien président ?
Non, l'ancien président, c'est parce qu'on avait un chapitre autour des femmes politique, où on déclinait, où on avait envie de faire Christiane Taubira, Bénazir Buteau, enfin il y a pas mal de choses autour de ça. Christiane Taubira, pourquoi...
Pardon, les gens qui nous écoutent se disent mais François Hollande n'est pas une femme.
Non, justement, ça nous intéressait d'avoir
un autre angle,
d'avoir un autre angle et le regard d'un homme.
On a plein d'éclairages différents et des angles différents, donc on trouvait ça amusant
de voir le regard d'un homme de pouvoir sur les femmes
exactement,
qu'il a côtoyées.
Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que François Hollande ne répond pas à une interview classique, mais une interview anglaise où il parle des femmes de pouvoir qu'il a rencontrées. Il a été difficile à convaincre. Je pense à lui quand il dit disait, mon ennemi, c'est la finance, et peut-être qu'il n'ait pas envie de donner une interview à un magazine de luxe.
Ah, ça, Il n'a pas été tellement difficile à convaincre.
Ah bon?
Je crois que quand, en fait, c'est très intéressant quand on envoie le magazine aux gens que l'on veut inviter, ils sont assez séduits par l'objet.
Ouais.
Et donc ça nous fait vraiment plaisir. Oui. C'est vrai que.
Il nous reste très peu de temps, Marie-Amélie. Vous promettez dans votre édito que vous allez reverser une partie des recettes à Médecins Sans Frontières.
Ouais.
D'abord, ça fait plaisir, parce que ça sous-entend que vous avez des recettes. Donc, il y a tellement de magazines qui perdent de l'argent que je suis ravi de le signaler. Maintenant, ma question, attention, quel pourcentage des recettes vous allez donner à Médecins Sans Frontières?
Je ne sais pas exactement quel pourcentage. Je suis absolument désolée. Je ne sais pas répondre vraiment à cette question.
Non, mais c'est 1% ou c'est 10%?
Alors là, je ne sais pas du tout.
Parce que
mais
c'est plutôt 10% qu'un pour cent.
Voilà, ouais. On restera sur cet inconnu. Merci beaucoup Marie-Amélie Sauvé. Merci Valérie Costantino. Je le rappelle, le numéro 9 de Mastermind est en vente au prix de 30 euros. Il est magnifique en anglais et non moins magnifique avec sa traduction en français. Quoique les traductions sont parfois dans la partie anglaise. Parce que les gens qui vous ont écrit en français, c'est l'inverse.
Exactement.
Tout le monde m'aura compris.